soyez les bienvenus, évidemment, tous nos vœux de bonheur.
Oui.
Bonne année, Leïla Kadobodani.
Bonne année, bonjour à tous.
Bonne année, Daniel Morin.
Bonne année,
bonne année, Tom Villa.
Bonne année.
Bonne année, Marina Rollman.
Bonne année.
Tanguy Bassureau sera là tout à l'heure. Et bonne année à Isabelle Carré.
Oui.
Bravo.
Bonjour Isabelle.
Bonjour, bonne année.
Bienvenue, on est ravis de vous accueillir.
Je suis trop contente de commencer mon année chez vous.
C'est gentil. Nous aussi, on la commence chez vous. Enfin, ça fait une semaine qu'on l'a commencé, mais professionnellement, oui. Vous êtes dans un film de Benjamin Parent, un vrai bonhomme. C'est le titre du film, hein, c'est pas ce que je dis de Benjamin Parent, qui sort ce mercredi. Ce film, parce qu'il est aussi émouvant que drôle. Il est sur, on peut le dire, parce que c'est dans la bande-annonce, sur la reconstruction après un deuil. Je sais même plus si l'accident était dans la bande-annonce ou pas.
Oui.
Bah maintenant, ouais.
Toi, tu dis non ?
Moi, je dis non.
On voit une voiture en flamme. Moi, je dirais que c'est surtout un film, en fait, sur l'injonction à la masculinité.
Ouais.
De certains pères, par rapport à leur garçon, à leur fils. On parle beaucoup de la pression que les femmes subissent. C'est vrai, il faut être jeune, il faut être jolie, il faut être une bonne mère, il faut travailler, en plus, non-stop.
Oui. Bon,
voilà, c'est les 3-8. Mais les hommes aussi,
sont pas
ont des pressions. Et
ça,
on parle
vrai.
De ça, cette pression-là, des jeunes garçons et du regard des autres. Et la difficulté aussi de trouver sa place dans une famille. C'est ces trois thèmes-là, en fait.
Voilà, en tout cas, c'est un film qui est à la fois drôle, émouvant, touchant, extrêmement bien interprété par vous, évidemment, par Laurent Lucas, évidemment. Et puis moi,
par deux jeunes garçons.
Les découvertes,
extraordinaires.
Thomas Guy et Benjamin Voisin, qui sont dingues en frangin, justement, mais d'une justesse déconcertante. Un film dont on va. Parler, mais d'abord, nouvelle année, nouvelle formule.
Il y a quiz ?
Pas du tout.
Ah bon ?
Non, je suis en deuil, il n'y a plus d'interro parce que je gagnais tout le temps. Non. Je pense que vous étiez complètement désespéré.
On va essayer un truc.
En 2020, j'étais hyper pro.
Alors, je vais être très franc. Hein. C'est un truc que j'avais fait il y a une quatorzaine d'années sur une autre radio avec mon pote Manu. Mais j'avais envie d'essayer ça pour cette année autour de cette bande, c'est-à-dire des affirmations. Nos invités vont vous donner des affirmations. Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez et me dire au bout de, allez, on va dire une petite minute si c'est vrai ou si c'est faux.
D'accord.
Isabelle a accepté de.
Est-elle une bonne menteuse ?
La marraine. Le but étant, j'explique à tout le monde, le but étant que l'affirmation soit vraie ou fausse, elle cherche évidemment à ce que vous ne trouviez pas, si c'est vrai ou si c'est
d'accord.
faux.
Voilà. Donc à défendre chaque affirmation.
Exactement. Quelle est votre première affirmation, Isabelle ?
Alors, c'est pas très glorieux, mais j'ai été virée du conservatoire de la rue Blanche après une bagarre avec un prof.
Ça, c'est vrai.
Non, mais c'est pas ça.
Qui a déclenché la bagarre ?
C'est moi.
Et comment vous l'avez frappé ?
Bah, je l'ai pas frappé, non. C'est une bagarre. Je l'ai insulté, en fait.
Mais qui ?
Je l'ai insulté.
C'était qui le prof ?
C'était le prof d'expression corporelle.
Comment il s'appelait, ce prof ?
Mais non, tu vas pas balancer le nom.
Je me rappelle même plus des noms.
Et ça fait combien de temps que vous étiez à la rue Blanche ?
En fait, j'étais à la rue Blanche. Je suis restée que 4 mois à la rue Blanche. Et on devait marcher sur un métronome. Faire des diagonales sur un métronome, marcher comme ça, et j'avais l'impression qu'il nous formait en fait à devenir des bons petits soldats. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est à être différent, quoi.
C'était pas la diagonale où il fallait rire, la diagonale où il fallait pleurer,
il y avait ça
comme
aussi,
ça.
Oui.
Il y avait
mais
ça aussi.
On imagine mal Isabelle Carré insulter quelqu'un.
C'est vrai
donc,
aussi.
C'est parti.
Il faut pas se fier aux apparences.
Ouais. Oui.
Ça peut être une lionne.
Vous souvenez de ce que vous lui avez dit ?
Ouais.
Non, mais je sais que j'avais copieusement insulté. J'étais partie en claquant la porte. Je me demande si je l'avais même pas un peu poussé, papa, avec mon torse.
Alors, quand on est balèze, ça arrive qu'on se rende pas compte. Hein.
Ça a l'air vrai.
Oui, ça a l'air vrai.
Vrai,
ouais.
Vrai, Daniel.
Oui, c'est vrai, c'est vraiment vrai.
C'est faux.
Ah non, il faut une majorité. Dans la majorité, c'est toi. Tout le monde dit vrai. C'est 3 à 1.
Ouais, non, vrai.
J'adore comment elle me regarde, mais là, j'adore.
Isabelle Carré, est-ce que c'est vrai ou faux ?
Non, c'est faux.
Bravo, Isabelle !
Ah, Isabelle Carré,
comédienne ! J'adore !
Il y avait un
c'est frustrant.
Je l'ai repéré.
Toi, t'avais le ice contact.
Ah ouais, je l'ai
mais c'est le mentir vrai d'Aragon, parce que j'aimais pas cette prof d'expression corporelle.
Mais pas au point de l'insulter, de la frapper.
Pas au point de la frapper. Mais j'aimais pas ces diagonales qu'on faisait, donc voilà.
Okay.
Mais c'est vrai que vous êtes partie au bout de 4 mois du...
C'est vrai que je suis partie au bout de 4 mois, pas virée, mais c'est moi qui suis partie, parce que j'aimais pas le côté trop scolaire, en fait. J'ai jamais trop aimé les écoles, et j'avais envie de travailler, voilà, donc je suis partie.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez bonne enseignante, si vous deviez
j'adorais,
transmettre
en fait. il y a pas longtemps, j'avais même écrit une petite lettre au Conservatoire national d'art dramatique supérieur qui m'avait vu, qui m'a ne m'avait
naître.
Pas viré, mais non, m'avait
oui,
rétamé au premier tour. Refusé. J'ai jamais eu le Conservatoire, et donc pas par esprit de vengeance, mais quand même, je leur ai écrit un petit mot en disant moi j'aimerais bien un jour faire un stage et tout. Ils m'ont dit qu'ils avaient bien pris note et j'adorerais en fait transmettre, ouais. Mm-hmm. Mais je ferais pas faire des diagonales comme ça.
Allez, deuxième affirmation, Isabelle Carré.
Pour des raisons personnelles, j'ai massé Thierry Lhermitte pour de l'argent. C'est absolument vrai, c'est-à-dire que...
Non, mais...
Non, non, si
ou
je me pose des questions...
Ou alors, c'est bien joué, parce que si c'est faux...
Vous l'avez massé.
Je l'ai massé pour de l'argent, Thierry Lhermitte.
Oui.
Thierry Lhermitte, alors vous l'avez massé où?
Au plexus solaire.
C'était pour un film?
Si, c'est vrai, au plexus solaire, il était très très crispé du plexus.
Mais pourquoi vous a payé?
Parce que c'était pour...
Attendez, c'était sur quel film? C'était sur un tournage de film?
Oui, forcément.
C'était sur un tournage de film, les Sœurs Soleil de Jeanne Hochepart.
Le plexus solaire, elle te dit.
Non, mais où? Parce que si ça se trouve, t'es dans
une
pays
usine de papier toilette.
Mais c'est Thierry Lhermitte qui vous a payé? Ou vous étiez payé
elle
pendant que vous le massiez?
Elle était payée pour le faire.
Ah oui, c'est dans une scène.
Donc c'est un film.
Oui,
donc
non, mais c'est pour des raisons personnelles. Elle a dit.
Il faut qu'on réénonce.
Redites votre affirmation, Isabelle.
Pour des raisons personnelles, j'ai massé Thierry Lhermitte pour de l'argent.
Ouais.
J'ai massé, hein. J'ai pas massé.
Non. Vous avez massé un peu aussi.
Et il était consentant, Thierry Lhermitte.
Ah, tu m'étonnes.
Ah oui, il a payé.
T'as déjà vu un mec dire non à Isabelle Garnett?
Bah, je sais pas, on sait jamais parce que si c'est une
il
scène.
Il était consentant et content aussi.
Est-ce qu'il a la peau douce?
Ah oui, c'est vrai.
Je me souviens qu'il était assez poilu du plexus. Donc je me souviens pas tout à fait de la texture de sa peau.
Non.
Alors vrai ou faux, qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce qu'on n'est pas dans une...
Ouais. C'est vrai.
Mais on est dans une zone d'ambiguïté, il y a un truc sur les terres.
Il y a un film.
Il y a la zone d'ambiguïté qui est un peu la même, j'ai l'impression, que la première affirmation, c'est-à-dire qu'il y a une toile de fond vérité, et peut-être la totale vérité ou totale fausseté.
Mais elle a quelque chose de tellement mutin qu'elle se départit jamais de cette expression-là, donc on ne sait pas.
Mais là, je sais qu'elle dit la vérité.
Ah, là, tu sais.
Moi, je veux dire vrai, parce que peut-être qu'elle s'est plantée au début, et ça joue en ma faveur.
Donc, Daniel, tu dis quoi?
Ouais, moi, je pense que c'est vrai.
Ok, tout le monde dit que c'est vrai.
Bah, c'est vrai.
Hey bon, Isabelle a perdu sur ce coup-là, parce que dès le début, t'as tout balancé.
Alors c'est vrai, maman. J'étais soulagée tout à coup de ne pas devoir mentir.
Alors pourquoi raison personnelle?
Elle me perçoit bien, Leïla.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait de personnel? C'était l'argent?
Qu'est-ce qu'il y avait de personnel? Voilà, effectivement, c'était pour de l'argent. En fait, c'est... on peut dire le seul film que j'ai fait vraiment pour de l'argent, et c'était pour accompagner.
Pardon, pour ce moteur-là.
C'était ce moteur-là, voilà. C'était pour payer à ma maman et à moi-même une cure thermale. Une cure de beauté thermale,
un
thalasso beauté, voilà.
C'est génial. Donc pour vous faire masser, vous avez accepté de masser.
C'est ça.
C'est un peu ça.
Ouais.
Très bien. Ok. Allez, nouvelle affirmation. Alors je rappelle le principe, Isabelle Carré. Vous donnez une affirmation sans dire avant si c'est vrai ou faux, sinon ça ne marche pas du tout.
Ça peut être un piège. Ça peut être un très beau piège. Ouais,
c'est mon côté blonde.
Non, c'est votre côté généreuse. On vous écoute.
J'ai écrit des textes de chansons que j'ai envoyés à Jean-Jacques Goldman pour qu'il les chante.
Je pense.
Il a accepté?
Il y a combien de temps?
Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une chanson que j'ai signée?
Est-ce qu'on peut avoir un titre?
Chantée par Jean-Jacques Goldman? Non, malheureusement.
Est-ce qu'on peut avoir un titre ou un thème de chanson?
Oui. Ça s'appelait Départ.
Et ça parlait d'un départ.
Le départ.
Mm-hmm. Mm. C'est des gens qui partent.
Ça commençait par puisque tu pars.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas pu chanter.
C'était un hommage à Carlos Ghosn.
C'était à quelle époque, Isabelle, ça?
C'était dans les années 90.
D'accord.
Et pourquoi Jean-Jacques Goldman?
Oh bah oui, c'est vrai.
Bah pourquoi pas?
Bah non, parce qu'il doit savoir écrire, donc.
Et vous avez écrit.
C'est ça qui est plus surprenant.
C'est Jean-Jacques Goldman, le chanteur.
Ouais.
C'est pas
le banquier.
Vous avez écrit des textes pour quelqu'un d'autre que Jean-Jacques Goldman par le passé ou aujourd'hui ou ça?
Non, mais c'est drôle parce que quand j'avais été à l'atelier d'écriture de Philippe Djian,
ouais,
il nous a demandé si on avait déjà écrit des chansons, parce que lui, il en a écrit beaucoup pour Stéphane Escher.
Ouais.
Et donc j'ai pu dire que oui, et j'ai raconté cette histoire aussi à l'atelier d'écriture.
Vous les avez envoyés où? À sa maison de disques, à lui, à un agent?
Ah oui, parce que mon frère est musicien.
Ah
donc,
oui. J'y crois plus là.
Benoît Carré.
Benoît Carré, oui.
Ouais.
Ah oui, le voyage en Italie, c'est ça?
Ta-ta-ra-ra-ra.
Ah si, je connaissais tous les gens à l'époque.
J'ai un doute parce qu'elle a fait un lien logique, genre ah bah oui, puisque mon frère est musicien, ils se connaissaient, et tout à coup j'ai perdu.
Sauf que bon, elle écrit.
Moi je pense qu'elle ment parce qu'elle saigne des oreilles. C'est un signe.
Non,
elle écrit.
Si je rougis, sachez que je rougis tout le temps.
Elle a pu les écrire. Je doute qu'elle les ait envoyés. Et je pense que le premier envoi, on ne le fait pas à Jean-Jacques Goldman.
Oh, quoi que sur un moment de folie ou anonyme ou tu sais les grands.
T'imagines, t'écris un texte, il est chanté par Jean-Jacques Goldman.
C'est génial.
Ça peut le faire.
Ah bah bien sûr, évidemment.
Ça peut aider.
Je sais pas si on commence par dire.
En 90.
Chère Céline.
Ouais, ça dépend du degré d'alcool.
Non, c'est vrai qu'il y a quand même un truc d'humilité chez Isabelle Carré qui fait qu'elle va peut-être pas envoyer comme ça. Elle a mis du temps à écrire, à se lancer dans l'écriture, à publier son roman. Il y a une
sorte de... déjà Jean-Claude Goldman.
Il y a une réserve.
Je pense que
c'est pas vrai.
Il me faut une réponse.
Moi, je pense que quand même c'est vrai.
Non.
Toi, tu dis que c'est vrai. Tom dit que c'est faux.
Daniel.
Mais c'est Leïla qui sait tout.
Non, je sais pas si je sais tout, mais je me dirais que...
Allez, Marina.
Moi, je dis que c'est faux.
Alors, bah, la majorité dit que c'est faux. Alors. Est-ce que c'est vrai
c'est
ou faux,
faux.
C'est faux. Ah. Ah. Elle a pas réussi à vous piéger sur ce coup-là. Avez-vous, mais ça, c'est une vraie question...
Écrit des chansons.
Écrit des paroles de chansons.
Oui. Dont départ. Alors, non, départ, non. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça comme ça.
Il a envie de quitter l'émission.
Elle s'appelle Midi et demi, ma chanson.
Est-ce que ces paroles ont été chantées?
Ça s'appelle Midi et demi.
Non, jamais, non, non.
Jamais chanté.
Je me rappelle d'une chanson qui s'appelait Les Pas Perdus.
Et donc, vous auriez pu dire Pas Perdu au lieu
J'aurais pu dire Pas Perdu plutôt que Départ.
Très bien. Allez, nouvelle affirmation, Isabelle Carré.
J'ai refusé d'être présidente du jury au festival de télé de La Rochelle car je n'avais pas la télé et donc pas la mieux placée pour juger.
En tout cas, c'est une bonne excuse si on ne veut pas participer.
Oui, mais c'est comme dans beaucoup de festivals, je suppose qu'on...
Tu vois les trucs en salle.
C'est ça.
T'as pas besoin d'avoir la télé
pour
le voir.
Est-ce que vous aviez juste pas envie d'aller à La Rochelle? Oh, c'est joli La Rochelle. Non, au festival, j'entends. Ah ouais. Parce que vous aviez juste pas envie d'assister à ce festival.
Alors, c'est vrai que les festivals, en général, je suis très timide, donc j'y vais peu. Mais comme celui-là était petit, j'aurais pu y aller. Mais...
Quelques années auparavant, vous aviez fait une grosse connerie à La Rochelle.
Elle avait massé le plexus solaire de Thierry Lhermitte.
J'ai des bons souvenirs là-bas parce qu'on avait on avait ramassé 4 prix grâce au film d'Améris, Maman est folle, qui parlait des migrants à Calais. J'ai des bons souvenirs.
En quelle année quand vous avez refusé? C'était.
Moi, je suis nulle en année, donc je me trompe toujours de deux
ans. Vous savez, c'est un truc qui commence par 1900 quelque chose. Non,
enfin, ou 2000 et quelques. Ouais.
2000 et quelques, voilà.
Ça veut dire que vous refusez de jouer éventuellement dans une fiction télé, puisque comme vous n'avez pas la télé à la maison, vous ne jouez pas dans des fictions télé.
Je joue dans des fictions télé, mais ça m'arrive. Et dernièrement, j'en ai fait une que j'ai vraiment aimé faire, même si le sujet était très dur, ça s'appelait La Maladroite, qui parlait de la maltraitance des enfants, et j'étais très, très fière de participer
et
à ça.
Comment ils ont réagi à votre refus?
Ils ont compris, ils ont dit, oui, c'est honnête en tout cas.
Oui. Et vous avez été juge ou...
Il faut une réponse.
Ah, déjà.
Okay. Ouais, déjà. Il y a un moment, il va falloir faire une
émission.
C'est
bien. Moi, je vois le vrai, je peux imaginer le vrai.
Le vrai,
c'est totalement faux, elle a accepté.
Ouais,
elle a accepté.
Ouais, elle a accepté.
C'est faux.
C'est faux.
C'est faux. Parce qu'elle a eu un rictus de... Ah, arrêtez avec vos questions, je sais plus quoi dire.
Non,
parce qu'elle elle peut pas faire ça.
Non, c'est vrai.
Elle est hyper honnête, mais elle peut pas faire ça.
Alors, c'est vrai. Faut savoir, c'est vrai ou c'est faux?
C'est faux.
Qu'est-ce que
j'ai
dit quoi? Tu dis c'est vrai, tu dis c'est faux.
Je crois que Daniel veut dire que c'est vrai que c'est faux.
Non, non, elle a participé au festival.
On a perdu Daniel.
Oui, oui.
Ah, c'est faux. Donc la majorité dit que c'est faux. Est-ce que...
C'est faux.
Ah,
j'y suis allée.
Okay.
Même si effectivement, je regarde pas la télé, donc j'ai fait beaucoup de visionnage.
Et vous étiez président du jury.
Et j'étais président du jury. Bon, oui, tu vois.
Allez, une dernière affirmation. Et vous avez réussi qu'à les bluffer qu'une seule fois. Hein.
Une dernière, il y en a deux, là.
Ah, bon, d'accord.
Vous choisissez.
Ouais, celle que vous voulez.
La vraie.
Celle que...
Bravo, Tom.
On va la voir.
Pour ma première télé, j'ai fait Le Grand Échiquier de Jacques Chancel. Et ma deuxième télé, j'étais invitée sur le plateau d'Apostrophe de Bernard Pivot.
Waouh.
Alors la première télé, c'est vrai, puisque c'était un texte, je me souviens, enfin j'ai déjà lu ça chez vous, sur vous. C'est vrai, c'était Chancel. Il y a une histoire de. Je sais pas pourquoi je pense à Francis Huster, bon bref, il y a un truc.
Elle est médium maintenant.
Oui,
alors je vois.
Mais ça va bien avec la musique.
Ramenez un fond de café.
Alors tu me demandes ce que je vois là.
Pivot.
C'est toi que je vois là-bas.
Moi je crois que c'était chez Pivot qu'elle avait fait sa première télé.
Non, c'est Chancel.
Chancel.
Sûr.
Il était pas mort?
Non.
J'aime bien les sûrs parce que quand ça se trompe après c'est bon, j'étais pas.
Non, je suis sûre de Chancel. Je suis sûre de Chancel.
J'ai l'air très très jeune, mais j'ai commencé aussi très tôt.
Ouais. Mais Pivot, alors du coup, ça voudrait dire quoi? Parce que soit t'es reçu chez Pivot parce que t'as un bouquin à présenter, soit parce
souvent
que tu...
Souvent c'est ça.
Non, mais soit tu fais une lecture, éventuellement
ou
tu lis un court texte.
Ou alors t'as des problèmes avec la jeunesse,
Parce que tu peux lire un court texte aussi chez Pivot, tu peux venir accompagner de quelqu'un et dire voilà, j'ai un texte, j'ai une comédienne qui va lire ça. Je sais pas, je suis toute seule là ou...
Ça, c'est la grande librairie. C'est la grande librairie,
mais aucune idée.
C'est la grande librairie. Mais alors,
la question, qu'est-ce que vous avez fait chez Pivot?
Qu'est-ce que j'ai fait chez Pivot
pendant cette apparition chez Pivot? Qu'est-ce que vous avez fait?
J'ai parlé de mes débuts de comédienne.
Et c'était pour un film ou une pièce?
Non.
Non.
Okay. Il est sympa.
Bah, non, c'est-à-dire, c'était pourquoi alors? C'était pas un film ou une pièce, c'était pas quoi?
J'étais là.
Allez, vendu,
c'est
Valentine.
Okay.
Alors, est-ce que c'est vrai?
Bah, c'est faux.
C'est faux.
C'est faux. La première est non.
Ou alors
c'est vrai.
Allez, allez. Il a fait tomber son jus.
Et c'était pas pour un film. Et c'est une bonne technique
de mal mentir.
De mal mentir.
Bravo, bravo,
la prochaine fois, imparable.
J'ai adoré le côté. Je ne sais pas quoi répondre.
Oh là ouais, là. Il faut faire ça en fait.
Non, génial.
J'aurais dû le faire depuis le début.
On l'a un peu agressé en même temps. Ouais, dans mais
franchement, vous êtes d'une fourberie. C'est incroyable.
Mais c'était parce que j'avais du mal. Non, c'est honnêtement, j'avais du mal à répondre à la question parce que c'était pas pour promouvoir une pièce ni un film. C'est en fait Bruel, Patrick Bruel, qui m'avait vu dans cette émission du Grand Échiquier de Jacques Chancel. Oui, effectivement, je jouais une scène en direct avec Francis Huster, voilà. C'était pas du voyage.
Ouais. Bravo, voilà. Leïla.
Merci,
bravo.
Et qui vous a dit, vous n'auriez pas une chanson pour moi, vous lui avez dit oui, j'ai sur les pas.
Et non, c'est pas ça. Perdu, et en fait, il avait adoré ce passage, et du coup, il m'a fait venir une émission qui lui était consacrée de pivot. Parce qu'il avait eu le coup de cœur sur ce moment de télévision.
Pivot, voilà. Patrick Bruel.
Mais j'allais dire, ouais, c'est une très belle rencontre. C'est un moment où le diagramme de Venn est assez rare.
Absolument.
De Patrick et
c'est
Bernard.
Formidable, c'est formidable. J'adore. Bon, écoutez, on va voir si on continue ou pas.
Non, on continue.
J'aime bien. Non, on va faire l'émission. Non, je pars avec nos invités. En tout cas, j'étais ravi que vous soyez la marraine
de cette formule.
Tiens, pour savoir, est-ce que vous avez apprécié le fait ou pas?
Ouais, j'étais un peu sur la sellette. Hein. J'ai commencé à me détendre.
C'est vrai qu'on avait fait sujet dès le début, c'est pas très simple.
J'adore le côté. Alors ça, c'est vrai.
C'est drôle.
Alors que tu m'avais bien briefé au début.
Mais elle a bien joué le jeu. Alors parlons, et ça c'est vrai, d'un vrai justement bonhomme. Comment devenir un vrai bonhomme, c'est-à-dire faire aussi bien s'en sortir à l'école, être du bon côté de la bande dans la cour de récré, pas être avec les bolos comme c'est dit dans le film, mais d'être avec les vrais, les caïds un tout petit peu. Et puis trouver grâce aux yeux du papa, aux yeux de la maman. Et tout ça, conseillé et aidé par le grand frère. Parce que c'est ça, le grand frère, tout le long, sera là pour coacher, pour aider le petit frère à s'en sortir.
Oui, lui, c'est l'enfant idéal, le modèle, en tout cas.
Ouais, il est beau, il est à l'aise, il a peur de rien, il joue bien au basket, c'est la vedette, quoi.
Il a du sens de la répartie, ce que je n'aurai jamais. Il est sur les selfies, ça fait bien. C'est vrai qu'on est quand même à une époque où l'apparence et les places et la façon dont t'assures, dont tu réponds, dont tu te comportes.
C'est faux. Ce qu'elle dit, c'est faux. C'est la meuf qui continue à jouer.
Non, ça y est, on est passé à autre chose, Leïla.
Je croyais qu'elle était devenue folle.
C'est drôle.
Et là, je te regarde dans les yeux en disant, qu'est-ce qu'elle raconte?
C'est surtout un film sur la rencontre avec des aliens, des gens qui viennent d'une autre planète, et finalement on peut s'entendre.
Alors c'est d'autant plus vrai, ce vrai bonhomme, que c'est pas loin d'être la véritable histoire du réalisateur Benjamin Parent. En tout cas, c'est l'histoire de sa famille, même si le rapport avec le grand frère n'est pas exactement le même, étant donné que c'était lui le grand frère dans l'histoire.
C'était lui le grand frère, ouais. Et c'est vrai que quand je l'ai rencontré, il m'a dit, comme oui, c'est le cas de beaucoup de premiers films, que c'était assez autobiographique. Et aussi, on a parlé de sujets plus intimes encore, l'homosexualité d'un père qui nous relie tous les deux. Et du coup, j'étais très touchée à la fois par ce que raconte ce scénario et aussi par la rencontre avec ce metteur en scène, avec cet homme qui a vraiment bien compris en fait, voilà l'époque dans laquelle on est et l'évolution en fait du rapport à la masculinité. Mais je crois que vous allez recevoir bientôt un auteur qui...
Absolument.
Je vous fais le lancement à votre place.
Ouais, ou... non, mais je trouve ça classe, elle est pro, mais continue à aller jusqu'au bout.
Benjamin, en fait, le réalisateur s'est inspiré, en fait, de ce livre.
Et le mythe de la virilité. Tout à l'heure, c'est le titre du livre d'Olivia Gazalet qui viendra, en effet, nous parler, puisque ce livre est cité comme une influence pour le film par Benjamin Parent.
Oui, il y en a d'autres, il y en a une autre que j'aime beaucoup aussi d'influence, c'est Stand By Me. C'est des films qui sont tellement fondateurs, quoi. Quand on voit ce film-là, quand on est gamin, on s'en souvient toute sa vie. Je pense que le film de Benjamin peut avoir cette influence-là sur la jeune génération, et je pense qu'il peut vraiment trouver aussi des réponses, un peu comme l'avait fait à un moment donné, j'avais beaucoup aimé aussi tourner dans ce film Respire de Mélanie Laurent, qui était très réussi, qui parlait aussi de...
Il y a aussi le harcèlement.
Le harcèlement, c'est voilà. Alors, comment on se place face à ça, quoi. quoi. C'est compliqué, on n'a pas les réponses quand on est jeune. Et c'est pour ça que des films comme celui-là sont super importants, parce qu'ils vous donnent des armes, quoi.
Comment une bande de décideurs, ceux qui ont la puissance, le pouvoir dans une école, décident de s'en prendre au plus faible, ou
exactement,
en tout cas à quelqu'un qui est le nouveau, donc qui est le plus déstabilisé ou déstabilisable.
Ouais.
Voilà. Et là, on y va avec les vannes, le bizutage, le je te pique les vêtements quand t'es à poil dans le vestiaire, des scènes comme ça qui sont extrêmement fortes. Et ce conseil permanent, c'est reste cool, détendu, je crois. Hein, c'est ça les deux mots utilisés. Cool, détendu. Et quand on a le regard des filles pour la première fois aussi, qu'on essaye de draguer la fille qui est la plus belle du bahut, et on se dit, mais non, mais c'est pas de ta catégorie, oublie mec, tu n'y arriveras pas. Enfin, tout ça.
Et ce que j'aime dans le film, c'est que les femmes ont un rôle, sont puissantes, quoi. Cette jeune fille dont vous parlez, qui drague, elle est puissante, quoi. Elle est magnifique, et elle est pas cette jeune fille douce, timide.
Ouais.
Voilà, c'est quelqu'un qui a de la place, qui prend de la place,
la bande des filles aussi.
Et la mère que je joue aussi à cette place difficile au départ. Elle est un peu sous la coupe de son mari, Laurent Lucas, qui est un acteur merveilleux. Enfin, je l'aime énormément dans le film aussi. Et
dans la vie, par contre, vous pouvez
pas. Si, il est très sympa. Il vit au Québec. Déjà, tous les gens qui vivent au Québec sont forcément des gens sympathiques.
Non, mais il y a un repositionnement.
Faut que je me défende de tout. Je lâcherai rien.
Non, mais non seulement les garçons doivent se repositionner, en effet, dans la société, ou même dans l'espace qu'est la classe, qui est une sorte de mini-société,
exactement,
au final. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les filles, elles, ne sont pas forcément en attente du viril macho, de sorte d'archétype de du mal alpha, qu'elle peut intriguée par un jeune homme un peu sensible, qui aime la lecture, par exemple, parce que dans le film, il y a une scène aussi qui est fondatrice, c'est comment tout d'un coup, s'il n'arrive pas à la séduire par ses capacités au basket, et on comprend pourquoi quand on le voit jouer.
Il en met 2-3 des paniers quand même.
Oui, mais enfin bon, il n'est pas quand même.
Parce qu'il a suivi ses conseils.
Il n'est pas complètement. C'est pas son truc. Il peut devenir quelqu'un d'autre s'il veut, mais ça ne sera jamais lui. En revanche, lire Jane Austen, tout de suite, ça peut faire marquer des points.
Voilà, ouais. Par la littérature, ça me parle aussi, ouais.
Et puis il y a le deuil de l'enfant préféré aussi, qui est l'un des thèmes du film. Tout cela, j'espère qu'on est clair dans la manière dont on essaye de vous donner envie d'aller le voir.
Beaucoup, là.
Mais oui, j'espère, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de portes d'entrée dans ce film. Il y a.
Oui, mais c'est la narration n'est pas confuse. On a vraiment une belle histoire et qui est à la fois les jeunes peuvent se reconnaître et donner, comme je disais, avoir quelques armes, quoi, pour faire face à ces difficultés qu'on a tous rencontrées, quoi, ces moments où on se sent démuni, quoi, face à la bande, face au groupe.
Non, et puis le deuil du frère préféré, c'est-à-dire comment gérer le fait que les parents voient partir celui qui avait toutes les qualités physiques, humoristiques, intellectuelles. Tout, quoi. Il avait tout pour lui. Et puis d'être là, d'être dans l'ombre de ce deuil, c'est extrêmement bien traité. D'ailleurs, là aussi, le comportement du père n'est pas le même que le comportement de la mère, que le comportement du frère. C'est vraiment chacun gère le deuil à sa façon. Et puis, il y a la manière dont il le vit comme un conseil ou comme un poids. Ça aussi, c'est le sujet du film. Est-ce que c'est une pression qu'il se met, ou est-ce que c'est une aide qu'il trouve?
Ces personnages,
on va pas le dévoiler, parce que
il s'invente en tout cas un allié qui reste présent tout le temps pour lui, qui est comme un espèce de Jiminy Cricket qui lui dit ce qu'il faut faire.
Est-ce que c'est toujours positif?
Est-ce que c'est toujours positif? La plume de Dumbo, quoi. On peut s'en passer, effectivement. On peut voler sans la plume de Dumbo, mais de temps en temps, c'est pas mal de l'avoir aussi, quoi. Moi, j'ai toujours des plumes de Dumbo avant de jouer au théâtre. Donc, je sais l'importance de tout ça. Je me mets, par exemple, sur scène, plein de petits endroits où j'ai mon sucre, si jamais je me sens pas bien, avec un petit peu d'alcool de menthe, un texte qui me fait plaisir, que je peux relire. C'est des objets magiques, voilà, on peut avoir ça à l'intérieur de soi comme une façon plus concrète, hein, c'est mon cas, mais pourquoi pas, hein, les plumes de Dumbo. Bon, pas mal aussi quand on s'envole sans, mais bon.
Ça veut dire qu'en ce moment, là, pour le rond-point, parce qu'il y a la pièce qui commence au rond-point, il y a des tailles de Lars Noren mise en scène par Frédéric Bellegas.
Et puis, il y aura la tournée avec la dégustation aussi.
La tournée avec la dégustation. ouais. qui va s'enchaîner. Voilà, mais là, on est là tout le mois de janvier au Théâtre du Rond-Point et j'adore cette pièce. C'est une pièce qui, je trouve, voilà, très très bien écrite par Lars Norén, de deux couples qui se croisent, qui ont perdu le bonheur, qui essayent de le retrouver, qui cherchent ce bonheur dans les années 90 sur 10 ans en fait, cette période des années 90 qui se situe entre deux effondrements, qui est une époque très étonnante en fait, entre la chute du mur de Berlin et la chute des Twin Towers. Et en germe, en fait, se situe toute notre société telle qu'elle va être aujourd'hui, avec la mondialisation, avec les problèmes des réfugiés, avec les hôpitaux surchargés, avec toutes les questions sont traitées là, le début du SIDA.
Et ça sent la grosse déconne, hein, cette pièce.
En tout cas, non, mais c'est une pièce très très. J'aime beaucoup.
Elle s'appelle
cette
Détail.
Écriture.
Elle s'appelle Détail. Ouais. Et pour pas qu'il y ait confusion, ça c'est la pièce.
Ça c'est la pièce.
Et
oui.
Voilà. Et le film s'appelle lui. Un vrai bonhomme, et oui. Ça sera ce mercredi, le 8 janvier, on va reparler de la pièce tout à l'heure, mais je voudrais vraiment aussi qu'on soit focus, j'ai envie de dire, sur ce film, sur la réalisation et la direction de Benjamin Parent.
Il vous a plu ce film?
J'ai adoré.
Ah, sincèrement,
j'ai adoré. Ouais. J'ai toujours un peu peur quand on joue avec le côté un peu fantastique.
Il y a une dimension un peu onirique à certains moments.
Ça fait penser au film avec Bruce Willis, Natcha Shamanan,
Sixième Sens.
Merci. Voilà. Où on se dit, c'est pas toujours facile comme ça de
c'est pas notre spécialité à nous, les Français.
De jouer avec l'au-delà, et pourtant c'est très bien. Et dans la réalisation, dans la manière dont ce grand frère qui est disparu continue de conseiller d'être l'étoile protectrice de son petit frère, c'est extrêmement bien touchant, réalisé. Et puis il y a de la vanne. Il y a de la vanne, c'est-à-dire que évidemment qu'il y a le deuil, qu'il y a un truc dramatique, peut-être un sentiment de culpabilité d'ailleurs quelque part au moment de l'accident que l'on voit dans la bande-annonce, cette voiture en feu, mais il y a de la vanne entre les deux et très dans extrêmement dans l'air du temps.
Oui, je pense qu'il peut vraiment parler à beaucoup de générations en fait.
Aux parents comme aux ados
aussi, aux parents aussi, parce que c'est vrai qu'on a voilà, on a tendance à avoir nos enfants d'une certaine façon quand ils sont à la maison et on les connaît pas. C'est comme si on rentrait dans la cour d'école, quoi, et qu'on voyait ce qui se passe, et peut-être après on peut mieux répondre en fait, je pense.
Il y a Thomas Guy, Benjamin Voisin, Laurent Lucas, Nils Otenin-Girard. Alors c'est lui le punk à Nat.
Il est super,
Tasmine,
ce personnage.
Jamlaoui, Guillaume Arnaud, Mohamed Sediki, Bruno Sanchez et Joséphine Drey, évidemment notre copine qui faisait partie de cette bande originale et que l'on embrasse au passage et qui est toujours aussi excellente.
Même
super en prof.
Même quand elle fait peur en prof. Ouais. Elle est d'une sévérité, j'adore. Ça sort ce mercredi, ça s'appelle Un vrai bonhomme et c'est un vrai bon film. Voici Tom Villard. Tom, on est d'accord, même en 2020, vous êtes expert en rien.
Ah oui, ça continue. Ah ouais, vraiment jusqu'à fin juin, c'est sûr et certain. Oui.
Donc vous donnez votre avis sur tout ?
Oui, un petit peu. Et puis j'ai compté, c'est le 10e passage d'Isabelle Carré dans l'émission. Du coup, je suis passé au service RH de Radio France, qui, contrairement à vous, Nagui, n'a pas l'air de s'être reposé pendant ses vacances. D'ailleurs, je parle, mais y a-t-il encore des gens qui nous écoutent ? Si ça se trouve, je suis en train de faire une papille à Noël. Tu sais, tu penses que tout le monde t'écoute, alors que tout le monde s'est barré à ouvrir les cadeaux, parce qu'en 3 semaines de grève et 2 semaines de vacances, si ça se trouve, y a plus un chat. Si ça se trouve, actuellement, France Inter, c'est Europe 1, mais la nuit, pendant les vacances.
Non, quand même.
Donc je suis passé à la RH. Et ils m'ont dit, oui, mais vous recevez encore Isabelle Carré, c'est formidable, on l'adore, mais c'est son 10e passage dans l'émission de Nagui.
Soit... Sans blague, et ça va se voir qu'on l'aime tant que ça.
Non, soit un de plus gagné sur Stel, et maintenant on est obligé de la payer. Donc, chère Isabelle, vous serez priée de venir signer votre contrat à la fin de l'émission dans le bureau de Corinne,
avec
bureau
plaisir.
B741, c'est celui qui est en face de la fontaine à eau et de l'ancien bureau de Frédéric Becbédé, qui, je le dis d'ailleurs, a pris son initial avec les initiales WC sur la porte. Et maintenant, vous faites partie de la maison, déjà, soyez pas étonné, parce que France Inter, c'est comme à la CGT, tout le monde s'appelle camarade. Enfin, juste, petite requête, Isabelle, Mathieu Vidard a demandé à ce que vous changiez votre nom de famille pour éviter tout parasitage avec son émission. Du coup, je crois que vous nous avez préparé une chronique totalement dans l'actu.
Oui, absolument.
Qui fait la une des journaux et qui déclenche les plus gros buzz en ce moment. Quel est le thème, Isabelle ?
C'est la galette des rois.
Ah oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui.
Eh bien, formidable, on vous écoute, Isabelle.
Alors, la galette des rois, c'est une galette traditionnellement élaborée et consommée dans une majeure partie de la France, au Québec, en Acadie, en Suisse, au Luxembourg.
Isabelle, pardonnez-moi de vous couper, mais je crois que vous êtes en train de nous réciter le Wikipédia de
Absolument.
La galette des rois.
Absolument.
Comment ça se fait ?
J'avais pas trop le temps, quoi.
Du coup, vous êtes dit... Bah,
j'étais prévenue ce matin.
Oui, bah, du coup, vous
dans
êtes
le taxi.
Du coup, vous avez dit, tiens, on va faire un petit copier-coller. Ouais. Hein, ouais, je t'embrouille, sauf que pas de peau, Isabelle. Le Wikipédia de la galette des rois, je le connais par cœur, vous savez pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai rédigé. Voilà. Tout comme le Wikipédia de Cookie Dingler, du Queen Yaman, de la Fiat Punto et de Nagui. Donc voilà, vous connaissez la sentence, Isabelle. Hein, vous savez ce qu'on dit aux gens qui travaillent pas à France Inter? On les vire. Voilà. Donc ça fait 3 minutes que vous êtes embauché, ça fait 1 minute que vous êtes déjà viré. Voilà. Donc vous savez ce qui va se passer.
C'est la carrière la plus courte de France Inter.
Ce qui va se passer, Nagui, c'est que vous allez revenir la semaine prochaine, Isabelle, faire une deuxième et dernière chronique d'excuses, une sorte d'ultime révérence. Voilà. On dirait que l'exercice était compliqué, que l'horaire n'était pas adapté à votre mode de vie. Alors, ensuite, on va dire qu'on partira bons amis, mais comme dans un couple qui se quitte, hein, comme un accord, vous serez plus quitté que d'accord. Vous allez ruminer dans votre coin, vous écrirez un livre qui sortira dans un an, vous raconterez toute l'histoire, comme si en réalité vous étiez infiltré, tel un espion qui veut démonter le système de l'intérieur, et vous nous chierez dans les bottes. Voilà, c'est ça qui va se passer, Isabelle. Donc, ne partons pas fâchés, on serre la main, hein, vous passez à signer votre contrat à la RH et récupérez votre badge de cantine. Et puis juste à côté, la compta, vous redéposerez votre badge de cantine et récupérez votre premier et ultime chèque. Bonne émission quand même. Et ici à la bande originale, hein, c'est comme un point soleil. À la 10e visite, la 11e est offerte. Bonne émission.
Bravo,
la bande originale, Nagui sur France Inter.
Et puis Tom, l'année commence bien aussi parce que tu commences ton spectacle à Paris. C'est au République ce mercredi pour ton nouveau spectacle. Donc les nommés sont.
Tout à fait.
Faut aller soutenir le copain.
C'est bien la République en ce moment.
C'est pratique, c'est hyper passant.
Il y a du monde même quand il n'y a pas de transport.
Ah ouais, c'est hyper bien. Si vous avez une banderole, c'est moitié prix. Hein,
c'est à quelle heure?
C'est à 21h30.
Ah bah voilà.
Ah bah voilà, il y aura eu dissolution de la...
Ouais, bref.
Un vrai bonhomme. Un vrai bonhomme réalisé par Benjamin Parent. Quand on est une comédienne de notoriété comme vous, Isabelle, et on imagine le poids sur vos épaules de porter un film, un premier film, c'est-à-dire, j'imagine que votre accord pour jouer a dû...
Je suis pas Madonna non plus, hein. je relativise.
Non mais quand même, avoir Isabelle
Carpentier, de notoriété, quand même.
Vous êtes le nom évidemment. Du casting en tout cas.
Isabelle Carpentier, la preuve, vous êtes là pour défendre le film.
Moi, et j'en suis très fière.
On m'aurait dit avant, va avoir un film avec Thomas Guy, je dis, c'est qui, pourquoi, comment? Il a le rôle entre guillemets principal en tant qu'adolescent, il est pratiquement de tous les plans et on lui souhaite une très belle carrière comme à Benjamin Voisin, on sent qu'il y a du charisme chez ces deux gamins.
Oui, dans quelques années c'est eux qui seront là et puis moi je serai assise là et je dis parle un petit peu de moi quand même.
Ma question.
Très belle
imitation de la vieille hein. Mais la question c'est comment accepter de jouer dans un premier film sans forcément connaître son réalisateur.
On lui demande s'il a fait des courts-métrages. La qualité du scénario, l'écriture, je voulais en être.
Benjamin Parent a travaillé aussi avec Hugo Gélin dans Mon Inconnu.
Il a co-écrit
le scénar, donc on voit la plume. Peut-être pas celle de Dumbo, mais en tout cas celle de l'auteur.
Oui. Mais c'est vrai que c'est très agréable de faire des premiers films et qu'il y a toujours un risque, entre guillemets. Mais je pense que c'est important aussi de retrouver. Ça fait 32 ans maintenant, j'ai commencé très jeune.
Sans blague, oui, ça.
Avec Francis Huster.
C'est pas la rue Blanche. Non,
elle a commencé, elle n'était pas née.
Commencé à 17 ans avec Rommel des Juliettes de Colin Serrault. Voilà. Donc, de retrouver en fait cette.
Fraîcheur.
Ouais, j'ai pas le sentiment d'avoir perdu du désir, hein, pas du tout. Mais d'accompagner quelqu'un qui découvre ça en fait.
Et mais qui... alors, pardon, quand on arrive sur un plateau de quelqu'un qui n'a jamais dirigé et que d'un coup sur une scène il va vous dire fais comme ci, fais comme ça, fais là plus ceci ou plus cela.
On fait comme ci, on fait comme ça.
C'est vrai?
Bah oui.
Ou alors on lui propose des choses comme on aimerait conseiller.
Ah oui aussi, alors moi j'ai une technique qui est pas mal. C'est-à-dire qu'en fait j'essaye d'être vraiment au plus juste pendant toutes les premières prises de la demande
de ce que vous avez compris du
metteur en scène exactement et de ce que le metteur en scène me demande.
D'accord.
Et je demande après quelques freestyles.
D'accord.
Des prises en fait pour moi parce que je me dis peut-être que je l'aurais plus vu comme ça, mais au départ on est quand même au service du metteur en scène.
Il y a notamment une scène très très forte, on va pas dire où elle se situe dans le film, où la maman craque en disant j'en ai marre de ton père et de toi, où elle est vraiment tiraillée on va dire par son rôle de maman voire de future maman et son rôle de maman d'un ado existante et aussi le rôle de la maman qui porte le deuil, qui doit faire aussi le tri.
Elle a du mal
chambre,
à se faire entendre en fait par rapport à son mari qui qui a des idées très 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 préconçues des choses et elle a du mal à... Mais ce qui est beau dans ce personnage, c'est qu'elle trouve son chemin et finalement en fait c'est elle qui va faire sortir tout le monde du labyrinthe. Elle s'appelle Ariane et elle va les sortir et elle va les amener vers la lumière en fait, et chacun va finalement y trouver son compte. Donc c'est une femme forte et j'aime beaucoup jouer ce parcours là quoi.
C'est bien qu'il y ait des femmes fortes aussi, que ce soit au bahut ou que ce soit à la maison, pour devenir un vrai bonhomme.
Exactement.
C'est là aussi ce côté féministe aussi, ouais, qui est important.
Absolument.
On parle de femmes, en voici une vraie. Marina Rollman.
Ah oui. Bravo. C'est une femme.
On m'a dit que c'est une femme.
Dit,
hein.
Bonjour.
Ouais, oui, la rumeur dit que c'est une femme.
Absolument.
Mariée en plus.
Bonjour les amis, bonne année.
Bonne année.
Nouvelle année, bonne résolution. Je me suis donc dit que j'allais placer 2020 sous le signe de la décroissance.
Oui.
Donc long terme, je vais essayer de moi-même décroître. Je dors les pieds contre le mur et je rapproche un peu plus mon lit chaque soir. J'espère d'ici la fin de l'année passer sous la barre des 1m60. Chaque geste compte. Mais à plus court terme, j'ai commencé par faire le tri chez moi. Et ça m'a permis de me rendre compte que j'avais un vrai problème de tote bag. Les tote bags, qu'est-ce que c'est? Alors ça se prononce comme la contraction de taupe et haute, comme une taupe qui vous inviterait chez elle et qui dirait « je peux prendre ton manteau, oh des fleurs, fallait pas, non je suis désolée, je crois que j'ai trop cuit le rôti, etc. » Mais ça n'a rien à voir avec un mammifère fouisseur qui vous inviterait à dîner. Non, c'est le nom qu'on donne à ces sacs réutilisables en coton, voilà, exactement, dans lesquels toute personne soucieuse de l'environnement devrait aujourd'hui faire ses courses pour ne plus bêtement utiliser des sacs en plastique qu'on jette après usage. Et si vous me ressemblez un petit peu, généralement votre tote bag il sera affublé d'un slogan en anglais peut-être, qui vante les mérites d'une librairie indépendante ou d'une foire d'art obscur, ou pourquoi pas d'un dessin de clitoris, et vous le baladerez gaiement entre les étals d'un marché bio et éthique pour fourrer vos navets. Mais si vous avez envie de mettre des boulons dedans ou des VHS de C'est mon choix, ça marche aussi.
Elle en a un, Isabelle, justement.
Ah bah voilà, bravo.
Et c'est ça,
qu'est-ce que c'est, 5e art à Fourvieux, la Jolette, on ne sait pas où c'est. Bah voilà, c'est ça, exactement. sauf que moi, contrairement à Isabelle, je les oublie. Donc quand j'achète des trucs, bah je rachète un tote bag avec. Et maintenant, j'en ai trop. Et c'est en train de prendre des proportions ingérables. On dirait qu'ils se multiplient. On a dû leur donner une pièce. On est en train de se demander si vraiment on veut avoir des enfants un jour, parce qu'on saurait pas où les mettre. Il y a des tote bags partout. C'est ce qui explique le prix du mètre carré à Paris. La pièce à tote bag. Des armoires entières qu'on a dévouées à une conscience écologique débile. Parce qu'en vrai, faut que tu l'aies sur toi pour qu'il serve à quelque chose, ce foutu sacré utilisable. Là, c'est une espèce de mi-cuit de la volonté. Tu l'achètes, mais tu le prends pas. C'est comme draguer quelqu'un avec des messages qui se terminent uniquement avec des points de suspension, tu vois, va au bout de la démarche. Et hier, j'ai dû faire face à l'inéluctable. Malgré la culpabilité monstre, un jour, il va falloir se résoudre à les jeter. Alors même que c'est dans le titre, réutilisable. Sauf que là, il faudrait que j'achète 120 kilos de pois chiches et 3 jeux complets d'encyclopédie par jour pour les utiliser, tous ces putains de tote bags. Alors je les garde, au cas où. Ouais. Et puis parce qu'il faut. Je les ai pris avec toute la légèreté du monde sur le moment, mais une fois que tu les as, il faut les garder. C'est comme un chien, mais en moins dynamique. Mais donc un jour, c'est sûr qu'on va finir par les bazarder. Un, et puis deux, et puis ça va être un mouvement mondial. Les gens vont se soulever contre la dictature du tote bag. On va se mettre à les balancer partout, ça va être l'anarchie. Les gens les jetteront en roulant par la fenêtre de leur bagnole, sur les côtés des pistes de ski, il y aura des montagnes de tote bag, dans les toilettes même. Et si on ajoute à ça qu'en 2019, seulement, j'ai perdu pas une, pas deux, mais 3 gourdes.
Non.
Et je ne compte même pas les parapluies. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on consomme pour pas consommer plus? Toutes ces choses qu'on a pour prévoir. Prévoir qu'on aura soif, prévoir qu'il va pleuvoir, prévoir qu'on va faire des courses. Et qu'au final, on paume. Qui vont où? On ne sait pas. Mais moi, je vous le dis, c'est sûr qu'ils sont partout, qu'on a déjà tous des microparticules de tote bag en nous et qu'un jour, on va voir émerger dans l'océan Atlantique un continent de tote bag où ils se sont tous agrégés désespérément dans leur désirement. Et sur ce continent, il y aura des espèces mutantes qui naîtront des êtres mi-taupe, mi-clitoris qui parleront de foire d'art contemporain obscur où personne ne va. Un continent de notre vouloir bien faire contrarié. Donc, pour éviter ce scénario glaçant, je les ai gardés. Et pour la décroissance des sacs, on verra l'année prochaine.
Bravo, bravo,
France Inter, Nagui, la bande originale.
Toujours au théâtre de l'œuvre.
Le mi-cuit de volonté.
En fait, on a tous le syndrome de Diogène, en fait.
C'est ça,
à cause de ces taux de
bagues. Du coup, ils ne polluent pas, mais on les a.
Non, mais tu peux t'en servir, tu peux les découper, les recoudre pour faire des petits sacs vrac, tu vois, pour aller chercher tes trucs.
Non.
Il y a une très belle intention.
Elle va revenir habillant avec un patchwork.
Ça, c'est vraiment...
Elle prendra toujours les rembours d'avoir un signal.
Mais Marina, au théâtre de l'œuvre, quand même.
Oui, les mercredis, jeudi.
Et voilà.
Venez avec vos
taux de bagues.
Chez l'ami François-Xavier de Maison, que l'on embrasse au passage. 92-93, la bande originale de la vie d'Isabelle Carré. Elle écoutait Björk.
If you ever get close to a human, and you are mine.
C'est vrai que vous êtes allé jusqu'à...
En Islande, à Reykjavik, sur les traces de Björk. Je me disais, je vais peut-être la trouver dans un bar de Reykjavik.
Des textes de chansons à lui faire chanter.
Non, je ne voulais pas lui refiler ma chanson départ. L'album début. Après l'album début, ma chanson départ. Non. Mais je l'ai jamais
rencontré. Je vais juste expliquer que l'album de Björk s'appelle Début.
Je ne l'ai jamais rencontré, mais par contre, j'ai bien rencontré le pays.
Et l'album,
et l'album aussi.
Et l'album, vous avez beaucoup écouté ?
Ah ouais, dingue. Je crois que c'est l'album que j'ai le plus écouté de toute ma vie.
Il vous met dans un état précis ? C'est comme une espèce de madeleine qui vous sert dans des moments de nostalgie ?
Ce que j'aime chez elle, c'est vraiment cette singularité. On reconnaît tout de suite sa voix, on reconnaît tout de suite son univers. Et moi, j'aime bien les gens qui sont un peu à part comme ça. Et cette énergie aussi. Enfin, quand on va là-bas, en Islande, on se rend compte qu'il y a une énergie, c'est tellurique, c'est vraiment le cas de le dire. Et elle a ça en elle, quoi, et j'adore. Et oui. Avant de jouer, effectivement, ça booste. Ça fait partie d'une plume de Dembo.
D'accord.
Avant le théâtre, éventuellement, on peut écouter ça. 92-93, Isabelle, c'est Beaufix. C'est votre premier grand rôle au cinéma, oui. Un film de Christian Vincent. Vous êtes plusieurs, je crois, comédiennes.
On est quatre.
Ouais.
Dont Elsa Silberstein, il y a Judith Rémy et Stella Larivaz.
Ouais, et il y a une part assez prononcée pour l'improvisation, pour une forme de liberté.
Oui, absolument, il fallait vraiment improviser. Enfin,
ça veut dire que c'était pas écrit clairement.
En fait, c'était surtout une improvisation par rapport aux déplacements, par rapport à des choses qu'on pouvait rajouter. Christian voulait vraiment qu'on soit le plus réaliste possible dans le jeu. Et du coup, effectivement, il fallait qu'on trouve ça, ce qui a été aussi le cas après dans le film de Philippe Harel, avec la caméra, entièrement subjective, comme un documentaire. Quoi. Il y avait un côté un peu documentaire, oui.
Et c'est un premier rôle qui vous vaut une première nomination.
J'étais
au César
trois fois en j'allais dire initiation jeune, c'est pas ça.
En meilleur espoir.
Meilleur espoir.
Ouais.
Et je l'ai jamais
eu. C'est drôle, initiation. Et jeune. Le César de l'initiation.
C'est avec la mène.
Voilà, je l'ai jamais eu en initiation jeune. Je l'ai eu après dans la catégorie
adulte. En 99, elle écoutait encore Björk. Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui vous a fait découvrir Björk? C'est un amour, c'est une copine.
C'est mon frère.
D'accord.
C'est Ben, ouais.
Benoît, ok.
Ouais. Qui m'avait offert le disque à Noël. Ouais.
All is full of love, Björk.
Pourquoi ça te fait
parce que je pense à Jean-Jacques Goldman. Parce que du coup, je pense à la chanson.
Oui, mais ça, c'était faux. C'était faux. Ne mélange plus la vérité.
Est-ce que c'est vrai? Oui,
c'est vrai.
Là, elle parlait de nomination. Cette fois, elle est primée.
Et cette fois-ci, c'est au Molière, donc au théâtre, pour Mademoiselle Elstalthur Schnitzler.
Qu'est-ce que c'était bien, ouais.
Et là, on vous découvre aussi dans votre façon de travailler. Parce que
ça me fait rire parce que il y a une histoire avec Nagui en train d'aller voir le spectacle Mademoiselle Else. J'ai demandé de se déplacer, enfin pas moi, mais l'ouvreuse qui se déplace trois fois en fait de fauteuil parce que j'étais nue en fait dans la pièce et il y avait un angle en fait où on me voyait vraiment très 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 bien
et j'étais pile assis à la bonne place.
C'est fou le destin.
Ah ouais,
j'étais
dingue,
pile assis à la bonne place. Et sauf que Isabelle Carré s'en rend compte par le hueton.
Je demandais que les journalistes soient pas forcément à cette place là.
Et moi j'ai dit je ne suis pas journaliste. Laissez-moi tranquille.
Je
suis animateur de jeu télé. Laissez-moi là. Et donc très gentiment.
T'as placé une GoPro et t'es parti.
Non, et très gentiment. Non, et moi je ne savais pas pourquoi. Et très gentiment. L'ouvreuse me dit vous serez mieux placé là-bas. Je dis non, vous embêtez pas, je suis bien là. Et tu sais, la pièce démarre à genre à 9h et il est 9h05. Et puis l'hôtesse revient, elle dit non, mais déplacez-vous. Et là, tu vois les gens qui te regardent et tu dis non, mademoiselle, là ça devient lourd. En plus, tout le monde attend. Non, vraiment, allez-y, quoi. Vous embêtez pas pour moi, commencez. Parce que j'étais à court.
C'est ça. Mais t'avais capté que c'était pour ça
pas du tout.
Ah bah ouais.
Et au moment où, en effet, elle est nue à court, et là, je dis pourquoi je suis pas restée là-bas.
C'était la place qui se payait trois fois le prix, en fait.
C'était le carré.
C'était le carré d'or.
Ça doit être spécial quand même avant de commencer.
C'est drôle de faire le carré d'or tout là-bas au coin.
Ça doit quand même être spécial de commencer à jouer, Isabelle.
Oui, pardon.
Ça doit être spécial de commencer à jouer en regardant à travers le rideau pour voir qui est placé à cet endroit-là.
Oui, c'est vrai,
pour se concentrer,
j'aurais dû d'ailleurs ne pas.
Ne pas regarder.
Oui.
Ouais.
De toute façon, si un jour vous jouez à poil, vous regardez dans l'angle et vous verrez Nagui. Hein. C'est comme ça qu'il réserve ses places. Hein.
Mais j'ai quand même toujours l'impression, quand vous préparez un rôle, alors je sais pas si c'est le cas ici pour un vrai bonhomme, c'est un peu différent, mais en tout cas pour cette pièce-là, que vous en profitez pour vous plonger dans une époque, dans une histoire. C'est votre rapport documentaire, on l'a déjà dit dans cette émission, à la préparation des personnages.
Oui, alors pour Schnitzler, c'est vrai que c'était vraiment agréable quoi, de relire tout Arthur Schnitzler et puis toute cette époque, Hofmannsthal, Zweig, bon, c'est toute la littérature que j'adore, Hermanès, voilà. Mais c'est vrai que c'est un grand souvenir, cette pièce. C'était très exigeant parce qu'il fallait jouer quand même 1h40 sans sortir de scène, avec cette scène nue, qui n'était pas du tout facile, quelque chose de facile pour moi. Voilà, mais bon, bah, je...
Ça pourrait vous faire refuser des rôles aujourd'hui, à nouveau, enfin, bah après potentiellement
après
cette
nudité. Après Philippe Arel, oui, vous avez ce...
Non, ça ne me ferait pas refuser, mais...
Le dépassement de vous, enfin, vous êtes...
Ce qui se passe, c'est que je... Non, c'est juste que je fais beaucoup de gym avant.
Ça, vous êtes belle comme tout, voilà, Isabelle, tout. Arrêtez. Bon, parlons avec Olivia Gazelli. Bonjour Olivia, merci de venir à ce micro. Vous êtes philosophe, cofondatrice des Mardis de la philo et auteure du livre. Donc je continue de parler pendant que vous finissiez votre livre, votre verre d'eau, c'est pour ça.
Bonjour.
Le mythe de la virilité, vous l'avez signé chez Robert Laffont. Vous saviez que le réalisateur Benjamin Parent avait potassé, entre guillemets, votre livre ?
Mais oui, parce qu'il a eu l'amabilité de m'inviter à la projection. J'étais moi hyper... flattée, honorée, et puis quand je vois le résultat, je suis surtout emballée, parce que j'ai adoré le film, vraiment. Je trouve que c'est bon. Déjà, c'est très très bien réalisé, c'est très bien écrit, et c'est magnifiquement joué. Alors pour ce qui est des parents, on savait déjà, notamment Isabelle Carré, mais...
Oh, elle n'a pas tout réussi dans sa carrière.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Elle a massé le plexus solaire de Thierry Lhermitte.
Voilà, oui, je n'étais pas née.
Et les deux gamins, ouais, c'est ça. Voilà. Thomas et Benjamin sont impressionnants. Être un vrai bonhomme. En fait, la définition du vrai bonhomme, j'imagine qu'elle n'est pas la même en fonction des générations et du moment où ça se passe, non ?
Oui, alors disons que l'idée de virilité a évolué au cours de l'histoire, mais enfin, ce qui demeure, c'est que ce qu'on attend d'un homme un vrai, enfin, dans cette expression contre laquelle je me bats personnellement, mais c'est très bien de l'avoir mise en titre, c'est l'idée qu'un homme un vrai, ça doit présenter un certain nombre d'attributs qui sont la puissance, la force, la domination, la performance. La puissance en un mot. Et donc, effectivement, on le voit dans le film très bien, c'est à la fois très contraignant pour un jeune garçon de devoir incarner tout ça. Et puis, en même temps, c'est un idéal qui est très discriminatoire. On le voit aussi dans le film, parce que dès qu'on ne présente pas tous ces marqueurs virils, triomphants, eh bien, on se fait bizuter, harceler, discriminer. Et puis agresser. Puis au cours de l'histoire, même parfois, je pense aux homosexuels ou aux efféminés, on les a incarcérés. Et encore dans beaucoup de pays, ils sont violentés, voire tués. Donc, c'est pas une petite affaire. Hein. La virilité, c'est quelque chose qui s'impose et qui est lourd et qui est mortifère. Parce que
ce mythe de la vérité dont vous parlez... a toujours existé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une période de notre histoire planétaire.
Si, bien sûr. Alors ça m'emmènerait trop loin de vous parler de la préhistoire. Je vais vous en faire grâce, mais il faut quand même se souvenir
Souvenir à Daniel Morin.
J'ai encore des parents qui sont restés dans la préhistoire.
Il y a eu des sociétés autrefois qui étaient où les
prérogatives,
les droits, alors matriarcales non, mais matrilinéaires, matristiques, c'est-à-dire centrées autour de la mère et avec des pouvoirs attribués à la femme beaucoup plus importants. Disons que c'était des sociétés qui étaient mixtes, qui étaient beaucoup plus égalitaires, où les prérogatives et les droits étaient beaucoup mieux partagés entre les sexes. Puis disons que la virilisation du monde, elle est intervenue quelques millénaires avant notre ère. C'est l'arrivée de la guerre, l'arrivée des grands monothéismes qui sont des monothéismes mâles, et avec surtout cette idée de guerre et de mythe guerrier, parce que les premiers en fait à avoir vraiment exploité ce mythe, c'est en Grèce antique, enfin en tout cas à Sparte et Athènes par exemple, on avait besoin de fabriquer des soldats. Donc, en fait, l'idée de l'injonction...
Donc c'est la force qui devient importante, là, parce qu'il fallait le combat.
Et surtout, le plus important, c'est ne pas avoir peur de mourir et ne pas montrer ses émotions, ne pas se plaindre. Parce que si on veut fabriquer un bon petit soldat qui va se faire crever sur le champ de bataille, il faut lui dire « tu n'as pas peur de la mort ». Et en fait, ça vient de là. Tout vient de cette idée qu'en fait, on fabriquait des soldats qui allaient...
Tu seras un homme, un vrai, fais le service militaire, bats-toi...
Et meurs.
Et meurs.
Meurs, parce qu'il faut se souvenir, par exemple... À Sparte, mais c'est le cas dans beaucoup de conflits. On honore que ceux qui meurent les armes à la main. On appelait ça la belle mort pendant longtemps. Il fallait mourir au combat. Et en fait, ceux qui revenaient survivants étaient considérés comme des lâches. Ils étaient très, très mal vus. Donc, en fait, on vous dressait des
on
très jeunes...
On était un héros après être mort, mais sûrement pas en revenant de, après la guerre.
Ah non, il ne fallait pas revenir, en fait. Donc, c'est pour ça. Tu n'as pas peur, tu ne te plains pas, tu n'as même pas mal.
Comment distinguer la virilité de la masculinité? Il y a une nuance?
Oui, bien sûr. Alors, la masculinité, c'est le fait d'être un homme. Donc il y a, et moi je préfère le dire au,
donc ça, c'est
au
un
pluriel,
c'est un
les
état.
Masculinités, oui c'est un état, c'est, si vous voulez c'est biologique, ouais. Mais après il y a aussi des façons d'habiter la masculinité, d'accord. Comme il y a des féminités. La virilité en revanche c'est une norme, c'est un idéal qui est lui normatif, c'est-à-dire pour être considéré comme un vrai homme, il faut montrer tous ses marqueurs. Mais les masculinités, elles, devraient pouvoir être toutes avoir la même légitimité sociale. On peut avoir une masculinité un peu, comment on va dire, féminine, ou une masculinité au contraire très vieille. Il y a autant de façons d'être un homme que d'homme.
Être homosexuel et avoir de la masculinité, oui. La virilité ne va plus d'un coup avec l'homosexualité.
Ben non, en fait, si bien sûr que si, parce que justement
bah oui,
là, il y a
c'est pour ça que je vous pose la question.
Oui. Mais parce que là, il y a aussi souvent des simplifications hâtives qui considèrent, où on confond identité sexuelle et orientation sexuelle, et où on va dire aussi que si quelqu'un est un petit peu féminin, entre guillemets, dans son allure, il est nécessairement homosexuel. Alors qu'on a des homosexuels qui sont extrêmement virils. En littérature, il y a un personnage qui est celui de Charlus dans Proust, qui est viril et homosexuel, alors qu'on a des hommes qui sont très féminins et qui sont très portés sur les femmes.
Donc la nuance sur la virilité et la masculinité est dans la force et dans la violence, entre guillemets, que ça dégage.
La virilité, c'est une norme et un idéal qui s'impose et auquel les hommes veulent ressembler. C'est-à-dire qu'on les enjoint à ressembler à ce modèle, et dès qu'ils s'en éloignent, ils sont soupçonnés de s'apparenter au féminin, donc se dégrader. Puisqu'en fait, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est l'idée d'une hiérarchisation des sexes.
Non, mais c'est
l'homme
dit,
qui est au-dessus de la
on
femme.
Dit, on pleure pas.
Donc dès lors qu'on
ressembler au féminin, c'est se dégrader.
Bien sûr.
Au secours,
bien
pas
sûr. Mais c'est
enfin
pour
la
ça
vérité
que...
éclate.
Non, mais c'est pour ça que l'effémination est discréditée. C'est parce que le féminin est dégradé que l'effémination est jugée dégradante.
Et ne pas pleurer, tous ces archétypes-là qu'on transmet aux garçons, c'est-à-dire tu pleures pas à l'école, alors que si on oppose virilité et masculinité, pour la femme, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les deux termes?
Alors justement, l'équivalent féminin de la virilité n'existe pas, et pour cause, puisque l'idée de virilité, c'est l'idée de la hiérarchie, de la supériorité. Donc c'est forcément quelque chose qui manque aux femmes.
Une femme féminine, quand même, on dit ça, une femme féminine.
Ah oui,
une femme...
tout à fait. Alors après, l'équivalent, ce serait l'éternel féminin.
Oui, parce que féminité, c'est l'équivalent de masculinité, si on fait un parallèle avec les hommes. Et virilité, nous, on a quoi?
Eh ben, on a l'idée d'éternel féminin.
La maternité.
C'est l'idée d'éternel féminin qui englobe l'idée de la maternité.
D'être une mère, oui, c'est ça.
Donc,
il y a des attributs aussi, la
l'empathie, la bienveillance,
la fragilité.
Fragilité, toutes propriétés qui, à mon avis, ne sont pas du tout l'exclusivité des femmes.
C'est
en fait,
scandale.
C'est ça l'idée. Ouais. Le piège, c'est de considérer que la douceur, c'est une propriété féminine, et que la puissance et la domination et l'appétit de pouvoir et de conquête et le goût du défi et la victoire,
alors,
c'est les hommes.
Les cartes sont rebattues. En ce moment, les cartes sont rebattues. On le voit d'ailleurs dans le film aussi. Il y a des femmes fortes, il y a des hommes doux. Enfin, encore une fois, tout le monde peut avoir et toutes les qualités
attributs,
et tous les défauts des uns et des autres, sans aucun jugement. Est-ce que les cartes sont redistribuées? Est-ce que vous allez presque faire une nouvelle édition maintenant du mythe de la vérité, avec le hashtag MeToo, avec la place légitime que prennent de vous?
Alors,
levez
oui,
les yeux au ciel,
non, oui, parce que je dis oui, non, parce que oui, nous en France, on peut avoir l'impression que les hommes commencent à réfléchir à toutes ces questions-là et s'en sont emparés.
La question du
si on regarde à l'échelle planétaire, il y a quand même des grands dirigeants de cette planète, je pense à Bolsonaro et à Trump, etc., ou à Salvini en Italie.
Mais il n'y a pas que des fous et des fachos,
des gens bien, s'il te plaît.
Ils veulent revenir en arrière sur cette idée-là, et donc revenir à cette polarité traditionnelle des rôles. Un homme est un homme, une femme est une femme, chacun à sa place, et chacun avec ses caractères.
Ça résiste, hein.
Et voilà, donc c'est encore très résistant. Et tout à l'heure, vous disiez...
Et on sort d'une année où il y a eu malheureusement 149 femmes mortes sous les coups de leur conjoint.
On n'a pas besoin d'aller à l'étranger, c'est l'avantage.
Tout à fait. Même si, mais comme les choses évoluent, il faut le dire, mais il y a encore beaucoup de boulot.
Le mythe de la vérité, signé par Olivia Gazalet, c'est passionnant. Merci Olivia d'être venue à ce micro, avec plaisir. Et bravo indirectement d'avoir permis permis à ce vrai bonhomme d'avoir le jour.
Non, mais bravo à lui et à eux surtout.
C'est réussi, ouais. Bonjour Tanguy, bonne année.
Bonjour,
Tanguy.
Bonjour, merci.
Vous, ouais, bah ouais, vous étiez pas là au début. Vous allez nous parler de l'Australie.
Et oui, tout brûle là-bas. Ce pays a le même parcours que le visage de Jean-Pierre Foucault. 500 millions d'animaux sont morts, mais aussi des gens. Hein, ce sont des animaux qui portent des t-shirts. Il fait jusqu'à 49 degrés, ça sent la fin. Voilà, allez, bonne année à tous. Et la santé surtout, parce que le reste, c'est pas gagné.
Ouais, c'est ça. On en parle après les infos de midi. La bande originale avec Léla Cadeau-Boudani, Marina Rollman, Tom Villa, Daniel Morin, Tanguy Passureau et notre invité Isabelle Carré. Avec ce film interprété par Thomas Guy, Benjamin Voisin, les deux adolescents qui ont les rôles principaux, avec Isabelle Carré, Laurent Lucas, il y a également Nils Autonin-Girard, Tasmine Jamlaoui, Guillaume Arnaud, Mohamed Sediki, Bruno Sanchez, Joséphine Drey, le tout réalisé par Benjamin Parent. L'histoire d'un adolescent qui est à la base timide, extrêmement sensible, pas très bien dans ses pompes, et qui d'un coup se retrouve non seulement en ayant perdu son grand frère, mais en plus dans un nouveau bahut, avec la pression du regard des autres, de savoir comment il va être accueilli ou pas. Mais son frère est une étoile maintenant qui brille dans le ciel et qui va le protéger, qui va le guider, qui va le coacher. Son grand frère, qui joue le rôle d'un mentor, qui est le fils idéal.
Le fils préféré.
C'est ça, le fils préféré. Et Tom va devoir se battre à la fois contre lui-même, à la fois aussi contre l'emprise de ce grand frère qui veut le voir comme un vrai bonhomme, justement, avec « Hey, t'es un homme, vas-y, bats-toi, te laisse pas faire, affronte les autres ». On ne sait pas trop d'ailleurs quels sont les bons et les mauvais conseils. On parlait tout à l'heure justement de la définition du mythe du vrai bonhomme. Et tout est là. C'est un film qui fait du bien parce que justement, il donne des clés et aux ados pour se sentir mieux dans leur pompe, voilà, et dans leur pompe, et aux parents pour donner ses conseils.
Moi, je suis toujours en train de me questionner qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants quand ils rentrent et qu'ils se disent ah là là maman, il y a quelqu'un qui m'a embêté. Alors j'ai dit il faut s'en sortir par l'humour. Oui, mais je sais pas. Alors des fois on fait des répliques toutes faites, mais ça va pas non plus.
Et on peut pas dire bats-toi, et en même temps il y a des parents qui
et en même temps on peut pas dire subis non plus.
Pour la self-défense de leur fille, les mettre dans des cours de combat, de karaté, de judo, pour pouvoir répondre à une éventuelle agression.
Comment donner des armes, des armes mais dont on n'aurait pas besoin de se servir, mais qui seraient suffisamment présentes pour empêcher la...
Comment éduquer ? Tout est là aussi.
Ouais, exactement.
Dans quelle direction et avec quelle valeur ?
Et justement, nous-mêmes, quand on était gosses, on ne savait pas forcément comment s'y prendre non plus.
Mais je pense que c'est encore plus compliqué aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment cette apparence qui prend tellement de place.
Les réseaux sociaux aussi.
Oui, c'est like. Mmh. On est liké ou on n'est pas liké.
C'est ça.
Donc, faut choisir son camp.
Mais ce qui est bien, justement, dans le game, on l'est pas.
Ce qui est bien dans le film, il y a cette prétendue bande de mecs qui sont pas forcément à la mode, dont le spécial
qui
JB.
Qui sont traités de bolosses, ouais.
Voilà, il est parfait, JB.
Qui est super, qui, en fait, on comprend aussi dans le film que c'est aussi comment on
souvent
va créer.
Souvent des boulets, les JB,
Ah, celui-là, il est bien.
souvent des boulets.
Bisous à notre rédacteur en chef. c'est aussi comment on peut constituer des petites communautés aussi. Alors, ça sera pas les mecs les plus à la mode, c'est sûr,
mais ça a toujours existé.
On peut avoir de
Et ça se trouve, ça sera les mecs les plus intéressants dans l'avenir, les plus créatifs.
Il faut miser sur l'avenir. Parce qu'il y a une
Il faut miser sur l'avenir. Il y a des revanches à prendre.
Il faut miser sur les gothiques.
On sent qu'il y a du vécu là.
Pas du tout. Non, mais quand tu regardes, c'est un peu la revanche des losers et tout aujourd'hui.
Regarde Nagui, le succès maintenant.
Un vrai bonhomme, c'est un vrai bon film signé Benjamin Parent et qui sortira ce mercredi sur les écrans. On vous encourage à aller le voir. Voici Tanguy Passion. Là devant toi, c'est bien.
Bon, grâce.
Tanguy, jusqu'à présent, on connaissait peu le Premier ministre australien.
Oui, personnellement, j'en avais jamais entendu parler, comme le fan de Guillaume Musso n'avait avant cet hiver jamais entendu parler de Gabriel Masneff, ce monsieur qui fixe l'âge de la sexualité épanouie à 14 ans. Dis si c'est un Philippin, puisque le Philippin fait tout très vite. Il travaille vite, il grandit vite. C'est comme les teckels, une année pour lui égale 7 pour nous. Alors, de l'Australie, je sais peu de choses, qu'elle nous a donné le groupe In Excess, dont le chanteur Michael Hutchence fut retrouvé mort en 97, pendu avec une ceinture en cuir.
pourrir. À l'époque, il n'y avait pas les véganes pour le pourrir sur Twitter, sinon il aurait choisi des bretelles élastiques. Le problème, quand on se pend avec des bretelles, étant qu'on rebondit 30 fois avant de mourir, ce qui en fait le suicide le plus idiot du monde. D'Australien, je me souviens de Midnight Oil, oui, un groupe écolo qui chantait Beds are burning. Les lits sont en train de brûler. J'ai longtemps cru que ça parlait de la sieste de mon grand-oncle René qui avait le feu derrière, mais Midnight Oil ne pouvait pas connaître mon grand-oncle puisque je suis la seule star de la famille, pour vous dire où se situent les autres. Enfin, en Australie, je me souviens de Macron qui, en 2018, y était allé. Il avait rencontré le Premier ministre Malcolm Turnbull, qui a un nom à faire du X. Je vois assez un Turnbull étalé du Nutella sur les seins d'une Jenny Fox, avant de le laper en murmurant « Je sais, il y a de l'huile de palme, mais c'est franchement pas le moment de penser à ça ». Alors Macron avait remercié Turnbull pour son accueil et il avait dit « I thank you, you're and your delicious wife ». Je vous remercie, vous et votre délicieuse épouse. Seulement « délicieuse » en anglais, c'est un faux ami. Ça se dit pour une tarte aux poires. Ça signifie « j'ai mis les dents sur la daronne ». Toute l'Australie, donc, s'était moqué de nous. Pour les Australiens de notre pays, c'est un bêtisier de fin d'année présenté par Karine Ferry. Alors aujourd'hui, Malcolm Turnbull n'est plus Premier ministre. Il a fait une bêtise. Il a dit vouloir respecter l'accord de Paris sur le climat. Or, son parti est bourré de climato-sceptiques, donc il s'est fait renverser. Il a la vie d'une tarte tatin. Et il était remplacé par Scott Morrison, un type con comme une fraise, à tel point que bonne maman rêve de le foutre dans un pot avec du sucre. Pour lui, alors, il n'y a pas de réchauffement climatique. En Australie, il y a des pointes à 49 degrés à l'ombre. Sa montre fond sur son poignet, comme dans un tableau de Salvador Dali. Son chien aussi fond. Le matin, c'est un labrador. Le soir, il est un Yorkshire. Mais il ne voit pas le rapport. Son vice-premier ministre a même déclaré « Le changement climatique n'est une préoccupation que des tarés de gauche des centres-villes. » Bref, on est tous là à se moquer de Trump par racisme anti-orange. Mais en Australie, ils ont une belle brochette de buse. Le jour où les crétins seront volés, on les retrouvera dans la stratosphère. Donc, résultat, l'Australie brûle. Moi, j'ai suivi ça pendant toutes les vacances, mais j'ai déprimé. Il y a juste 5 minutes, le 1er janvier de minuit à minuit 5, où j'ai un peu souri en lançant des serpentins, puis j'ai redéprimé, parce que c'est un désastre. 6 millions d'hectares brûlés, 500 millions d'animaux sont morts, soit autant que pour fournir la cantine du Sénat sur un an. 2000 maisons sont parties en fumée pour reconnaître leurs propriétaires. Ce sont ceux qui, quand on leur a dit « bonne année », ont répondu « ouais, bah ta gueule ». Enfin, c'est une catastrophe, Nagui.
Bon, et comment a réagi le Premier ministre, Scott machin, là,
il n'a pas réagi, il ne comprend pas. Pour lui, il n'y a pas de réchauffement. Les températures de 49 degrés, il se dit « zut, tous les thermomètres sont en panne en même temps. Celui de ma femme, de mon neveu, de la pharmacie, quelle camelote !» Scott Morrison est un con. Donc l'hypersécheresse qui fait qu'un mégot de clope met le feu à la moitié du continent, il n'a pas anticipé. Vous lui insérez la tête dans le four, il cherche où sont les canettes, au frais, Scott Morrison est un con. Au plus fort des incendies, il était en vacances à Hawaï, le 1er janvier, il a tiré son feu d'artifice. Il s'en fout. Lui, son premier axe a été de soutenir financièrement l'industrie du charbon la plus polluante du monde avec la chanson québécoise. Vous lui montrez Greta Thunberg, il ne sait pas qui c'est. Il vous dit c'est pas la petite dans la famille Adams. Scott Morrison est un con. Pour vous dire à quel point il est timbré, il a embauché un consultant en empathie. Un type qui lui chuchote « Non Scott, quand une dame pleure devant vous parce qu'elle a tout perdu dans les incendies, vous ne devez pas dire « Allez, une maison de perdu, 10 de retrouver ». Scott Morrison est un con. Maintenant, les gens qui croisent les pompiers refusent même de lui serrer la main. Ouais, il n'a pas touché un être depuis 17 jours. Voilà quelqu'un qui n'aura pas la gastro. Alors certes, des stars, ces créatures sublimes qu'on admire et qu'on déteste en même temps, ont mis de l'argent sur la table. Nicole Kidman, 500 000 dollars pour les pompiers. Elle n'a pas dû acheter leur calendrier en décembre, cette pétasse, donc elle se rattrape comme elle peut. La chanteuse Pink, pareil, 500 000. Le tennisman Nick Kyrgios, qui est australien, a promis 200 dollars à chaque fois qu'il réussit un ace. Alors financièrement, ce serait plus intéressant de mettre 200 dollars à chaque fois qu'un joueur français perd en tournoi. Mais les gens du tennis n'y ont pas pensé, parce que ce ne sont pas des personnes d'argent. Bref, tout le monde se mobilise. C'est bien le fric, on adore ça, mais enfin, ça n'a pas ramené les koalas qui ont brûlé. Et 8000 koalas étaient déjà morts juste à cause de la canicule. Pour ceux qui pensent que 49 degrés, ouais, bah c'est l'été, quoi. La planète part en sucette, toute collante à cause de la chaleur, un beau chamallow grillé, aussi mou que la tête de Scott Morrison. Scott Morrison, vous voyez qui c'est ? Bah, c'est un con.
Merci, Tony Machin. Ah, tiens. Midnight Oil, justement. Comment faisons-nous pour dormir alors que nos lits sont en train de brûler ? C'était sur l'écologie, en plus, parce que c'était un homme politique, d'ailleurs, député.
Militant. Un grand militant. Et écolo. Qu'il a été député, je suis pas sûr. Si. En tout cas, très, très militant. Avant l'heure.
Allez, on écoute encore un peu, ça fait du bien, Bad Zerbani. C'est toi le mec en boîte de nuit.
Oui, je sais pas.
Le mec en boîte de nuit, c'est toi qui fais genre tous les instruments.
Globalement, je crois que j'ai un problème psychologique. Voilà,
c'est tous les instrumentaux de toutes les chansons.
C'est ça, c'est ça.
Ça veut dire qu'il est à l'aise.
On appelle ça une fin de carrière.
Ça veut dire que t'es bien là.
Il n'y a pas que la planète qui est en danger.
En tout cas, bravo à France Inter maintenant.
Gobelets.
Il y a des gobelets en carton.
Et des carafes.
Il n'y a pas de bouteille d'eau.
Exactement.
En plastique.
Des gobelets réutilisables.
Et c'est la première fois que je vois ça à France Inter. Moi qui suis sociétaire, c'est la première fois que je vois que vous avez fait ça dans cette émission.
C'est gentil de le remarquer.
Vous avez le gobelet de Le Maire.
Bruno Le Maire.
Dans le film, justement, Un vrai bonhomme, la musique est présente également.
Oh là là. Terrible.
C'est là-dessus la chorégraphie après justement. Il a une dégaine incroyable, avec la pression.
Moi, pour moi, c'est ce Benjamin Voisin, ce jeune acteur, c'est Depardieu jeune, quoi. Je trouve qu'il est aussi doué. Il est d'ailleurs Depardieu l'a remarqué et a parlé de lui en ces termes, l'a adoubé. Ah.
Transport, train, va et vient. Pourtant te lever, taffer, il fallait bien.
Et ça c'est le frère.
Ça c'est DJ Pone
de Benjamin Parent, c'est ça?
Ouais.
Comme les wagons, les jours se suivent et se ressemblent. T'aimerais tellement changer de vie ou ouais, être recentré, mais n'importe où dans le...
Un vrai bonhomme, un vrai bon film, on le redit, signé Benjamin Parent, qui va marquer les esprits, en tout cas avec ce premier film et cette réussite en tant que réalisateur. On lui souhaite évidemment le rendez-vous, de ne pas rater le rendez-vous avec le public. C'est un film qui fait du bien humainement. Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré, Laurent Lucas, pour tenir l'affiche de ce film. On va continuer de vous poser des questions, mais cette fois-ci, elle n'a pas les réponses, Isabelle Carré.
Comment je vais m'en sortir?
Comme tout le monde.
En essayant de répondre. Quelle est la particularité du clip de cette chanson?
Je vais te raconter l'histoire de ce papa qui a perdu son ange il y a 10 ans. C'est l'histoire de ce battant en orant la mémoire de son enfance, son combat,
il
comme
blanc.
Les sourires aux anges malades, comme les théâtres.
Il est tourné au téléphone.
C'est un enfant qui chante.
Azurien, il est mieux que la chanson.
Alors le clip est tourné au téléphone, ça c'est vrai.
Elle est bien la chanson?
Oui, elle est bien.
C'est tourné au téléphone, mais...
Juste pour rire.
Mais...
Mais c'est tourné au 3210, et là, c'est bien intéressant.
Au Nokia.
C'est un plan séquence, il n'y a pas de montage?
Non.
Non, il y a des comédiens en particulier, il y a des gens qui sont à l'image...
Ouais.
Il y a Vincent Cassel.
C'est des gens de tous les jours, c'est une vidéosurveillance. Non. Donc, du coup, c'est des grandes stars.
C'est le casting qui compte, ouais.
Ah, il y a Franck Dubosc et tout. C'est ça.
Exactement. Dubosc, ouais, Yannick Noah, Soprano, Dubosc, Fred Testo, les footballeurs aussi de Nice, de Monaco. C'est-à-dire qu'ils miment tous en souriant, un cœur avec les doigts. Un imposant casting réuni pour ce clip d'un rappeur niçois, Chaotic 747, qui vient d'être mis en ligne, artiste indépendant. Pendant, vous avez déjà participé à des vidéos, à
des clips?
Ouais.
Non.
Jamais. Personne.
Jean-Jacques Goldman non plus?
Non.
Alors, faut dire que là, c'est pour une bonne cause, ce film.
Julien Clerc m'avait demandé de faire.
La fille au Banilon?
Non.
Ah,
Hélène. Tu sais que j'ai des belles jambes. Mais...
Hélène, Mélissa, mais
non, son dernier clip.
Ah d'accord,
voilà.
Ok.
Et finalement, je n'étais pas libre, alors j'ai pas pu, mais j'avais été très flattée.
Très bien.
Qu'est-ce qui ment bien.
Je voulais alors, vrai ou faux?
Non, c'est vrai.
Je voulais juste préciser que c'était pour une bonne cause, ce clip en l'occurrence. C'est-à-dire, c'est pour soutenir et récolter des fonds pour la fondation Lenval, L-E-N-V-A-L, si vous aussi vous voulez faire du bien à cette fondation, qui gère un hôpital pédiatrique sur la Côte d'Azur. Et malheureusement, faute de moyens et de maisons de 10, le rappeur a demandé aux stars de se filmer. Avec leur portable pour pouvoir constituer ce clip. Qui est l'auteur, le ou la mieux payé au monde en 2019?
Daniel Morin?
Non.
Marc Lévy?
Tu peux parler
Lee Child?
Non.
Francophone
Encore J.K. Rowling? Toujours J.K. Rowling?
Exactement.
Pourquoi encore maintenant?
J.K. Rowling.
Est-ce que ça continue à sortir? Ça continue, il y a plein de trucs.
Elle est toujours l'autrice, si on accepte cette
formule. Mais moi j'adore cette histoire. Parce que
la
quand
mieux payée au monde.
Son histoire est belle, quoi. Ouais. Elle était quasiment à la rue, refusée de partout. Elle éduquait seule deux
elle
enfants.
Elle était au modem, d'ailleurs. Ouais.
Alors, c'est elle qui est l'auteur la plus payée au monde, mais pas sur les droits d'auteur. en fait, c'est sur justement
sur
tout, exactement tous les produits dérivés, c'est ses revenus globaux qui lui permettent d'être à la tête de ce classement. J'imagine que c'est Forbes qui a donné le classement, non? Dès qu'il s'agit d'argent, c'est toujours Forbes.
Vendu.
Voilà. Hier se déroulait la cérémonie des Golden Globes avec un speech en ouverture tellement drôle. Tellement fou, tellement drôle. Mais tu sens qu'il a fait des vannes sur les gens présents dans la salle. Et
il y a comme chaque année.
Et non, mais sur les gens. Mais il y avait des plans sur ces mêmes personnes qui riaient jaune. Parce
qu'il a parlé de Weinstein un petit peu.
Il a un peu parlé de Weinstein. Il a fait une vanne formidable sur Leonardo DiCaprio en disant que le film The Irishman était tellement long qu'à la fin du film, la nouvelle petite amie de Leonardo DiCaprio était trop vieille pour lui quand il sortait du film.
C'est bon ça.
Non, c'est vraiment. Regardez ça sur Internet. Mais hier donc, c'est déroulé à cérémonie des Golden Globes, quelle est la particularité des films sélectionnés pour la meilleure réalisation?
Tous de Netflix.
C'est que des femmes qui étaient à l'arrière.
Ouais, Netflix qui
C'est l'inverse.
C'est que des hommes.
Voilà, exactement.
Ah. C'est ça, oui, l'inverse aurait été plus.
Aucun réalisé par une femme dans les nominations.
Comme quoi, elles ont du programme.
Elles ont des bons films, hein. Bah ouais, si à un moment donné, il faut se sortir les doigts.
Il faut y aller. Elle
a raison. Je suis pas sûr que l'expression soit la mieux.
C'est vrai aussi.
Tu as senti plus ou moins de gêne? Je nous montre de doigts, il y a un truc qui n'est pas passé.
Je suis avec toi, Marie.
L'idée de. Vous avez déjà mis en scène, oui, réalisé. Isabelle Carré.
J'aurais peur de vraiment de pas être légitime, vraiment.
Mais pourquoi vous ne le seriez pas? Ou c'est écrit où?
Alors, la place du réalisateur, c'est vraiment la place où il faut répondre à toutes les questions et assumer l'ultime question du t'es sûr. Et c'est peut-être la question qui me déstabilise le plus dans ma vie. Donc rien que pour cette deuxième question, cette deuxième salve de questions du t'es sûr, je crois pas que je serais capable.
Mais il y a bien des moments où vous avez le sentiment que quelqu'un a une espèce d'assurance et fait des choses en toute impunité, j'allais dire, ou même en toute imposture. Et voilà, parce qu'il décide.
C'est vrai que tu peux faire un film en te disant je vais bien m'entourer, je vais avoir un super chef opérateur. Voilà.
Mais comme pour votre livre, vous étiez sûr de vous au moment de les écrire.
Non, j'étais pas sûr de moi, mais il y avait quelque chose qui faisait que je ne pouvais pas ne pas le faire, en fait.
D'accord.
Donc, c'est ça qui s'est passé. C'est que la récurrence du désir d'écrire cette histoire-là, en particulier, l'histoire des rêveurs, était tellement forte que... puis j'ai quand même été à l'atelier d'écriture de Philippe Jean, et ça m'a aidé à retrouver l'écriture au quotidien, quoi. Et puis après, j'avais trop hâte de l'avoir couché sur le papier. Ça faisait 20 ans que j'en rêvais, je suis un peu lentin. Voilà, peut-être dans 20 ans, je serai une bonne réalisatrice. Ah ouais. Enfin, je ferai mon premier film dans 20 ans, je sais pas.
C'est bien.
Regardez, chacun son rythme. Hein.
C'est ça. Lui, c'est une totale imposture. Il n'a fait aucun atelier d'écriture. Voici Daniel Morin. Ah,
même en 2020, c'est une ordure.
Avec plaisir.
Des héros, des modèles, des pères spirituels, des mentors, j'en ai un paquet. Vous le savez, Balkany, Pasqua, Cahuzac, Kadhafi, Pablo Escobar, Bruno Maigret, Émile Louis, Nagui, bon. Bref, de la pointure que du XXL, hein. Mais là, je crois que j'ai trouvé le modèle ultime, l'exemple alpha de la réussite, du savoir-vivre, du rien à péter. Carlos Ghosn. Ah, mon Dieu. Mais je le kiffe d'une force. Et quand on lui dit « Hey Carlos, tu crois que tu pourrais relancer Renault ?» Le gars répond « Moi, je crois qu'il y a peu. » Et bim, il vire des milliers d'employés. Renault est sauvé. Les employés virés ? Non, juste chômeur. L'entreprise est sauvée. Et comme ça marche pas mal, on revient le voir. « Carlos, tu crois qu'après Renault, tu pourrais relancer Nissan ?» Si, je crois qu'il y a peu. Ouais, c'est ça qui répond le Carlos. Et bim, ça remarche. Du coup, le gars, il gagne bien sa vie. Hein. Il touchait en gros entre 10 et 15 millions d'euros par an. Alors, ok, c'est moins que Neymar. Enfin bon, il court moins vite. Ah ben voilà. Et ben, même en touchant autant de pognon, il n'a pas pu s'empêcher de planquer du fric. Enfin, planquer, non. Il a oublié de déclarer des millions d'euros. Ah là, c'est pas pareil. Et puis l'année dernière, comme on dit chez les jeunes, patatras. Il se fait gauler par les Japonais qu'il met en tôle. Putain, Carlos, en tôle comme un vulgaire ouvrier. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Et puis la tôle au Japon, c'est pas le Club Med. Tu dois parler japonais déjà, c'est obligatoire. Mais du coup, Carlos, qui n'est pas habitué à ce genre de traitement, mais il en a eu marre. Il s'est dit, je vais me barrer. Et se barrer. Il s'appelle Carlos, je lui donne un accent spanish.
Il est mexicain.
Il s'appelle Carlos.
C'est bizarre.
Il paye pour ça. Hein.
Ah, remarque qu'il est brésilien.
Oui, il est né là-bas. Ouais.
Ouais, c'est vrai.
Et se barrer de chez les Japonais, c'est pas hyper simple. C'est même très compliqué. Vous croyez que ça va l'arrêter, mon Carlos? Je dalle. Le gars, il se met dans une valise et hop, tapis roulant sous ta bagage, direction Beyrouth via Istanbul. Coup de génie. C'est la plus belle histoire de valise après la valise RTL, la valise à Carlos. Attention, c'est pas tout. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que pendant
que Carlos préparait son évasion samsonite, il s'est dit « Mais cette histoire, c'est hyper cinématographique !»
On dirait Garcimore, en fait.
Oui, c'est ça, c'est le mix.
Ou Speedy Gonzalez, je ne sais pas très bien.
Il prend son téléphone, il appelle le boss de chez Netflix et il signe un accord d'adaptation ciné de son évasion véridique.
Non.
Ils ont des moyens de fou, vous le savez, Netflix, ça va être énorme.
Mais qui doute de rien.
J'imagine le truc d'ici. Netflix, en partenariat avec la Banque du Liban, présente La Valoche à Carlos. L'histoire folle de l'évasion en valise la plus spectaculaire du Japon. Dans le rôle de Carlos Ghosn, Robert De Niro. Dans le rôle de l'hôtesse de l'air, Catherine Deneuve. Dans le rôle de la valise, Gérard Depardieu. Osaka, Istanbul, Beyrouth, enfermés dans une valise sur le chemin de la liberté. La Valoche à Carlos, prochainement.
La Valoche à Carlos.
Sur Netflix. L'argent qu'il a dépensé pour son évasion, il va le récupérer en droit ciné. Bien entendu, attention, tout ça n'est pas pour échapper à la justice. Il l'a dit, Carlos, c'est pour préparer au mieux sa défense et prouver son innocence.
Bien sûr.
Vous, je sais pas, mais moi, j'y crois à l'innocence de Carlos. À demain.
Bravo, Daniel Morin.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
On vous retrouve dans Un vrai bonhomme, Isabelle Carré, ce très bon film signé Benjamin Barran qui sort mercredi avec Thomas Guy et Benjamin Voisin, entre autres. Mais tout, c'est vrai que tout le monde est bon dans ce film. Vous avez tourné avec Lambert Wilson, Libre de Gabriel Lebaumin.
Alors qui, je crois, va s'appeler finalement De Gaulle.
Pour
tout
Yvonne,
simplement.
Parce que vous êtes Yvonne De Gaulle dans le film, c'est ça?
Voilà, le film s'appelait Libre.
D'accord.
Il faisait un peu à référence à l'appel du 18 juin. Ouais. Voilà, mais finalement, je crois que ça va s'appeler De Gaulle.
Très bien, au moins on saura de quoi il s'agit.
Voilà, ouais, ça mérite d'être clair.
C'est plus clair.
Fin janvier, vous serez dans L'Esprit de famille d'Éric Bénard avec François Berléand, malheureusement, qui continue de jouer parce que personne ne veut dire, François, qu'il faut s'arrêter. Non. J'embrasse et bonne année, François.
Oui.
Guillaume de Tonquédec.
Guillaume de Tonquédec.
Également, joli casting.
Et Josiane Balasco. Ouais.
Vous faites qui là-dedans? Pourquoi?
La femme de Guillaume. Combien d'années après l'école des femmes?
Vous jouez ensemble, c'est vrai.
Voilà. C'est rigolo.
C'est génial. Ouais. Et vous serez prochainement à l'affiche de Delicious, on pourrait dire, en Australie. D'Éric Bénard avec Grégory Gadebois, Benjamin Laverne, Guillaume de Tonquédec encore.
Encore, oui.
Un film sur la création du premier restaurant en France.
Oui. Ah ouais. C'est un film d'époque, juste avant la Révolution française. Et c'est une histoire d'aventure et d'émancipation aussi, féminine, qui concerne mon personnage. Et de démocratisation de la cuisine, on pourrait dire.
Et du 8 janvier, c'est-à-dire de ce mercredi, date de sortie du film jusqu'au 2 février, vous êtes sur la scène du Théâtre du Rond-Point, dans Détail, de Lars Noren, mise en scène par Frédéric Garcia Bellier.
Frédéric Bellier Garcia.
Ouais. Ah d'accord, ok. Oui. Bon, bah, je l'avais lu à l'envers. Très bien, ça c'est mon côté arabe. C'est au Théâtre du Rond-Point.
Avec Carré Isabelle.
Ouais. Du Rond-Point. Avec Carré Isabelle. Et ce printemps, donc, la reprise de la dégustation. Que diriez-vous, Leïla? Que dirais-tu de ce vrai bonhomme?
Moi, c'est un film qui m'a touchée au sens où on n'est pas nécessairement assigné, parce qu'on est un garçon, à des pseudo-attributs virils. Et je pense que c'est temps qu'on le dise aux garçons.
Ouais.
Pour que ça se passe bien après.
Clairement.
Moi, je dirais vive nos différences, quoi, surtout.
Oui, mais en fait. Je vous ai pas demandé. Marina.
Oh non, mais la liberté de la nana.
Attends, moi, les sociétaires.
Et ça fait 10e émission.
J'avais oublié.
Marina.
J'ai pas vu le long, mais je recommande, si je ne m'abuse, le cours de Benjamin Parent. Une histoire de cow-boy.
Oui.
Qui est vachement bien. Je crois qu'il est en ligne et voilà, faut aller voir. Très bien.
Tanguy Passureau.
Moi, j'ai pas vu le long ni le court, donc je suis un peu comme un con, j'ai rien à recommander. Au revoir.
Tom Villa.
Après une très belle chronique sur la galette des rois, j'attends la chronique ultime sur les soldes d'Isabelle Carré.
Daniel
Les
Morin.
Soldes?
Oui.
Alors moi, j'étais parti pour aimer. Finalement, j'ai vu le film et je suis très déçu parce que j'ai trouvé qu'il y avait une erreur colossale. C'est comment peut-on imaginer qu'Isabelle Carré ait des enfants aussi âgés, tellement à l'aise.
C'est pas crédible, on est d'accord.
Pas crédible.
Ouais, non, mais c'est vrai.
Non, elle joue très bien.
Pour une fois qu'il est clair.
Midi 29,
un vrai bonhomme. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise en sortant de la projection d'un vrai bonhomme? Si, là maintenant c'est à vous que je m'adresse.
Vive les différences, Isabelle Carré, vous mentez.
Non, je veux juste dire que j'étais contente avec vous aujourd'hui.
Okay,
que c'est
elle ment.
Voilà.
Elle ment.
Demain, Chantal Lhebby sera notre invité.
Oh non, encore.
Bravo Isabelle et bravo pour tout ce que vous faites et bravo pour ce vrai bonhomme. Passez une bonne journée sur Inter. Pardon pour ce retard. Bonne année, Philippe Bertrand.
Bonne année, les enfants.